J'ai réussi totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai essayé de vous convaincre au plus grand âge, en combinant les deux, de dire que les présidents trouvaient une solution par rapport à ça.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Parole aux auditeurs. Nous allons passer avec vous près de 60 minutes d'échange et de discussion sur des sujets qui vous intéressent, des faits que vous vivez au quotidien. Il y a quelques semaines, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a lancé une campagne d'instruction dans les établissements professionnels d'éducation non formelle. Le Bureau international du travail insiste depuis 1971 sur le soutien apporté à ce secteur de l'éducation, car selon l'enquête menée par cette agence rattachée à l'ONU, ce secteur d'enseignement demeure la voie sûre de réduction de la pauvreté dans le tiers-monde. Dans ces pays dont fait partie la RDC, le chômage touche plus les jeunes, pendant que ceci représente près de 60% de la population. Quel état de lieu faites-vous des écoles professionnelles dans votre milieu? Michel Sangasso est le directeur de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il sera notre invité. Vous voulez participer à cette émission, vous exprimez, donnez vos avis, vos propositions. Composez le 081-699-7315. Sur la média à la supervision, sans oublier Nicole Dakar, et aussi il y a Jean-Noël de Mokolo à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Encore une fois, bonjour, notre invité est en ligne, il s'agit de M. Michel Sangasso, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes le directeur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, une division du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Avec vous les auditeurs, nous allons parler de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le ministère a lancé une campagne d'instruction dans ses établissements. Pouvez-vous nous dire quelles sont les motivations du ministère?
Les motivations du ministère sont telles que la grande majorité des jeunes puissent s'inscrire massivement à l'enseignement technique et professionnel. Mmh. Surtout les filles qui considèrent que l'enseignement technique et formation professionnelle est réservé uniquement aux jeunes garçons, alors que les filles ont plus d'aptitude à faire l'enseignement technique et formation professionnelle. Et tout cela, c'est la préoccupation du ministère. Nous voudrions inscrire massivement les jeunes gens à l'enseignement de cette formation professionnelle parce que cette formation donne immédiatement lieu à l'employabilité.
Donc là, vous parlez déjà même de l'utilité de ces enseignements dans la société, mais est-ce que vous avez pu mener une étude pour voir qu'effectivement les jeunes dénigrent ce secteur ou ne s'en occupent pas?
Oui, effectivement, parce que lorsque vous menez une enquête sur le nombre de candidats qui sont inscrits à l'enseignement technique et formation professionnelle par rapport aux jeunes qui sont inscrits dans l'enseignement général et normal, vous constatez que l'écart est trop grand et que parce que en fait les jeunes gens considèrent l'enseignement technique comme un enseignement réservé aux jeunes gens qui ne sont pas intelligents et qu'au bout du fil, lorsqu'on termine cet enseignement, on exerce des métiers négligents et moins payés. Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement nous devons tout faire pour que changer la tendance de manière à ce qu'il y ait plus de jeunes gens à l'enseignement technique que l'enseignement général et normal.
Mais d'où vient ce désintéressement, ce dénigrement?
Oui, ce désintéressement a une longue histoire. En fait, depuis l'époque coloniale, les jeunes gens qui terminaient l'école primaire pour aller à l'enseignement secondaire, les meilleurs élèves devaient aller faire la philosophie ou faire la littéraire. le délai de moyens à l'effet des sections scientifiques et commerciales, mais le dernier, c'est celui-là qu'on envoie dans la ferme d'enseignement technique professionnel.
Mm-hmm.
C'est à partir de ce moment-là que tout a commencé.
Mais maintenant, dans la société, on voit ce contraire parce que nous constatons que les élèves qui suivent la filière normale, école primaire, secondaire, université, se retrouvent sans travail, au chômage, mais ceux qui suivent les écoles techniques et les formations professionnelles, ils ont un travail. Est-ce que cela n'a pas pu motiver les jeunes gens?
Effectivement, c'est la campagne que nous devrons faire pour effectivement que cette tendance change. Parce que depuis que les parents étaient complexés de la notion de diplôme d'État, les centres pour les écoles professionnelles se sont vidés. Et tous les jeunes gens voulant aller à l'université, obtenir le diplôme d'État et être un grand commis au bureau, au sommet ou être un grand politicien. Et depuis lors, les gens n'ont pas compris que les choses ont évolué sur le terrain.
Mm-hmm.
Et qu'effectivement, c'est la campagne que le ministère doit faire pour que cette tendance la change. Parce que, en fait, nous avons autant de licenciés qui sont en chômage, autant de gradués, que sais-je encore, alors que les jeunes gens, aussitôt terminés, ils ont mis le métier à la main, même s'ils ne sont pas engagés ou recrutés dans une entreprise ou ailleurs, mais ils peuvent surtout employer,
mm-hmm.
ils peuvent faire leur petite entreprise et puis engager même d'autres collègues. Donc vraiment, c'est une campagne que vous et nous devrons faire pour que cette mentalité la change.
Surtout lorsque nous pensons que la finalité des études, c'est plus tard avoir un travail stable dans la vie. Si on arrive à l'avoir déjà avec des études professionnelles, c'est déjà une bonne chose. Vous restez en ligne, vous êtes notre invité, vous serez avec nous tout le long de cette émission, Monsieur Sangasso. Le temps d'écouter aussi nos auditeurs qui veulent s'exprimer, qui veulent donner leur avis par rapport à ce sujet-ci.
Okay.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Ba. Ba? Ben, nous appelons à partir de Guémena, c'est dans la province de l'Équateur, à Guémena, où on nous suit en FM sur 95.4. Bonjour, Ba. Bon, on l'a perdu, il a dû peut-être raccrocher, on va essayer de pouvoir le recontacter. Va nous appeler à partir de Guémena. Et pour tous ceux qui veulent participer à cette émission, donner leur avis, parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La question pour notre émission, quel état de lieu faites-vous des écoles professionnelles, bien sûr, dans votre milieu? Qu'est-ce que vous avez constaté autour de vous concernant ce sujet-ci? Si vous voulez participer, c'est le 081-890-6315, le 081-890-6315, ou nous écrire à partir de notre adresse internet pa@radiookapi.net. Donc il suffit d'écrire. Et quand lorsque vous composez le 081-890-6315, vous avez le temps de donner votre nom, la ville d'où vous appelez, mais aussi votre numéro de téléphone, ce qui nous permet à nous de pouvoir vous rappeler, comme ça vous allez participer à cette émission, vous exprimer, donner votre avis, mais aussi, surtout des propositions pour qu'on puisse évoluer dans notre débat.
Parole aux auditeurs par internet pa@radiookapi.net.
Voilà, nous revenons dans ce studio. Au bout du fil, nous avons M. Michel Sangasso, il est directeur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est lui notre invité au cours de cette émission. Encore aujourd'hui, nous avons vraiment des problèmes, des troubles de connexion. On n'arrive pas facilement à voir nos auditeurs. La réalisation qui revient de me faire signe qu'il y a plusieurs auditeurs qui se sont déjà inscrits. Mais on a vraiment des difficultés pour pouvoir les atteindre. Nous parlons de ce secteur qui est assez délicat. Dans l'introduction, on a fait voir qu'effectivement, Le Bureau international du travail insiste depuis 1971 sur le soutien apporté à ce secteur de l'éducation, car selon les enquêtes menées par cet organe attaché à l'ONU, ce secteur d'enseignement demeure la voie sûre de réduction de la pauvreté dans le tiers-monde. Dans ce pays dont fait partie la RDC, le chômage touche plus les jeunes, pendant que ceci représente près de 50% de la population. Donc il est plus facile pour un jeune d'apprendre un métier, d'avoir une formation professionnelle, la menuiserie, la boulangerie, l'électricité, la couture. Donc il y a autant de filières, l'agriculture, il y a autant de filières que l'on peut embrasser pour qu'on puisse avoir un métier. Donc c'est ça le credo du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, pour pouvoir envoyer les jeunes à s'inscrire dans ces écoles au lieu de faire des longues études pendant plusieurs années pour les pas de boulot. Nous avons Janvier au bout du fil. Bonjour.
Bonjour, maman.
Vous êtes à vous aussi de Kivu. Heureusement qu'on a pu vous voir, parce que là, on a vraiment un problème terrible de connexion, un trouble de réseau, mais quand même, on a pu vous voir. Donc, on vous écoute. Quelle est la situation chez vous?
Non, ma situation vraiment, nous sommes bien, mais seulement que nous avons le problème de connexion, je ne vous écoute pas bien.
Ah, ça, c'est encore difficile, mais essayez un peu, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Qu'est-ce que ça vous à vous, les écoles techniques et les établissements de formation professionnelle existent? Est-ce que ça continue à fonctionner comme avant?
Vraiment, j'ai le problème de connexion.
Ah, voilà, on n'arrive pas à joindre nos auditeurs, ce sera assez difficile au cours de cette émission. Janvier, on va essayer peut-être de vous recontacter, peut-être que le réseau sera meilleur, mais j'espère que notre invité est toujours au bout du fil, docteur, plutôt monsieur Michel Stangasso.
Oui, je le suis.
Oui, heureusement, avec vous, ça passe. Nous avons essayé de mener quelques recherches. Est-ce que, pour l'instant, la loi qui est en vigueur concernant l'enseignement national, est-ce qu'elle arrive à promouvoir, en fait, ces formations et aussi l'enseignement technique?
Oui, effectivement, la loi qui est en vigueur ou qui est en élaboration tient compte de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mm-hmm. Parce que, en fait, sous d'autres yeux, il n'y a pas de développement sans l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Parce que tout ce que nous vivons, les avions dans lesquels nous montons, les véhicules, les habits, les vêtements, les téléphones, on ne peut pas les avoir sans passer par l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc vous allez constater effectivement que sans l'enseignement technique et de formation professionnelle, franchement, le développement est mis en péril.
Mm-hmm.
C'est pour cette raison-là que la loi a donné une large place à l'enseignement technique et à la formation professionnelle.
Mm-hmm. Et, nous avons un autre auditeur qui est au bout du fil. On espère que cette fois-ci, ça va marcher. On a pu recontacter Ba de Guémena. Bonjour. Bonjour, Ba.
Bonjour, bonjour madame, bonjour, bonjour.
Oui, c'est Bab, parce que B-A-B, c'est comme ça qu'on prononce votre nom. Merci Bab, dites-nous à Guémena, est-ce que les écoles professionnelles continuent à fonctionner comme il faut?
Vraiment, merci beaucoup madame, c'est avec beaucoup de traits que je viens à Guémena, comme je l'avais évoqué, à Guémena, il y a les écoles professionnelles.
Mm-hmm.
Mais nous remarquons une chose,
mm-hmm.
Les écoles ne sont pas réellement préparées de faire ça. Vous comprendrez les élèves qui sont dans une école ne sont même pas à la hauteur de leur formation, et les élèves qui sont au niveau de l'électricité ne savent même pas installer les cours électriques. Il y a des notions qui sont liées de nos théories, mais ces théories n'ont pas de. Ne sont pas de pratique.
En tout cas, la liaison téléphonique est en train de se détériorer. On n'a pas très bien suivi, mais en gros, ce que j'ai pu retenir, c'est que vous dites qu'il y a des écoles qui existent, mais vous déplorez la formation, vous déplorez aussi le manque de prise en charge de ces écoles. Vous avez même donné un exemple. Je pense que c'est ce que vous avez dit, parce que là, la liaison n'est pas du tout bonne, mais on va essayer encore une fois de pouvoir vous recontacter si c'est possible, hein. Entre-temps, nous allons prendre Guillaume. Il est au bout du fil. Bonjour.
Oui, bonjour, Marie-Chantal Lumba.
Oui, Guillaume, vous êtes à Mahagui. Le temps d'abord de remercier Bab de Guémena. Guillaume, vous êtes à Mahagui. On vous écoute.
Oui, merci, je vous en prie.
On vous écoute.
Oui, allez.
Oui, on vous écoute, oui, Guillaume.
Bonjour, Marie-Chantal Lumba.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur l'invité. Merci, merci pour votre compromis. Merci pour votre confirmation à l'émission éducationnelle. L'immolarité, la légèreté des personnalités, la corruption, les laisser aller, la corruption, les laisser aller, la paresse, la négligence est bien du côté du café que des parents. La question qu'on peut poser ensemble aujourd'hui à ce niveau, quel type de Congolais vous êtes en train de former et qu'ils vont commencer par exemple à parler de Lingala dans leur bureau, dans leur bureau pour demain. Quelle est la chance ou la société qui s'apporte ensemble de faire sens? Parce que le domaine de l'enseignement est comme l'activité des actions diplomatiques dont les réponses et les solutions ne se trouvent pas seulement au niveau du bureau. Mais d'où par conséquent, avant la capacité et la possibilité de visiter toutes les écoles et d'évaluer le niveau des professeurs et ces assistants-là qui sont en train de former des gens. Oui, bien sûr, on se sent que oui, des gradués qui sont chaque année, mais ces gens-là, oui, après avoir terminé les études, mais ils manquent des affaires. Je ne sais pas si qu'est-ce que le gouvernement pense pour eux. Alors vous avez tout pris au niveau ceux qui sont au pouvoir, sont seulement ceux qui sont en train seulement de Ingala, d'aller dire mais vous parlez de l'enseignement professionnel. Alors on peut savoir aujourd'hui le but de votre enseignement là, où est-ce que vous
Guillaume, c'est vrai, vous avez soulevé la légèreté, la corruption, vous préconisez l'assainissement de ce secteur, mais aussi vous parlez du Lingala. C'est, le Lingala, c'est une langue, hein, une langue nationale. Est-ce que pour apprendre, est-ce que nécessairement il faut le faire en français? Est-ce que c'est une question de fond, de forme?
C'est une équipe de congrès qui vous est en train de former là.
Oui, donc voir.
On va parler de Lingala, d'aller vivre.
Oui, au regard des besoins de la société, et des enseignements qui sont en train d'être donnés. Autant de préoccupations, Guillaume, nous allons échanger avec vous, inviter vous-même toutes ces questions. Et aussi, on vous demande de continuer quand même à nous suivre à Mahagui, pour pouvoir suivre bientôt. Mahagui, vous nous suivez à nous sur 96.0, comme ça vous aurez une réponse à toutes vos préoccupations, les réponses données. Par notre invité. Et nous allons s'écouter, Augustin. Merci pour votre participation. Bonjour, Augustin.
Bonjour, madame.
Augustin, on vous écoute. Quelles sont vos préoccupations? L'état de lieu, d'abord, que vous faites des écoles techniques et formations professionnelles à Trinity.
Oui, merci, madame. Dans la première manière, mon numéro qui est l'école, mais qui est la plus renommée dans les temps anciens, c'est l'Institut technique pédagogique de Tindou, ITPK. Cette école regorge vraiment des capacités la plus prépondérante ou la plus énorme. Dans les temps anciens, c'était l'école qui était la meilleure. Quand vous regardez l'infrastructure, ils ont vraiment de bons bâtiments. Mais malheureusement, madame, cette école, on a l'impression comme si on forme des délinquants. Pourquoi j'ai dit en forme de délinquants? Parce que les élèves qui sont dans cette école, elles préfèrent pendant les heures de cours, madame, des fois ils conversent en swahili, alors que les cours sont en français. Quelqu'un arrive à n'importe quel pays, quand on les fait rentrer, ils se fâchent contre le professeur. Donc je voudrais que notre gouvernement doit améliorer, chercher une politique, comment savoir encadrer ces écoles-là pour en faire le futur cadre. Parce que nous avons une section, par exemple, automobile, l'école générale. Ce sont des cadres de la construction. Mais on sera compliqué parce qu'il n'y a pas de financement suffisant pour équiper ces écoles en matériel, par exemple, et nous nous trouvons devant une difficulté. Et pourquoi voici ce que je suis en train de vous parler? Alors je vous parle, je suis à l'enceinte de cette école de Kindou ici, dans le quartier Bassoko. Parce que je donne cours dans cette école cette année.
Donc vous donnez cours, mais vous, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour mieux encadrer ces jeunes?
Madame, à mon niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais arriver cette année, il y a de cela peut-être deux semaines que je suis là. Je vous dis, madame, ma présence fait quand même quelque chose de changement, étant donné que je fais tout pour que là où j'entre, là où je donne cours, je vais éduquer ces enfants. Je
les montre. Vous
voudriez
que.
Oui.
Et, mais Augustin, est-ce que vous avez constaté, vous avez essayé de faire, est-ce que vous avez essayé de regarder autour de vous, est-ce que les jeunes ont vraiment cette envie d'étudier dans des écoles techniques ou bien le nombre est assez inférieur par rapport à la filière classique normale?
Oui, par rapport à d'autres institutions, je pense que nous n'avons pas assez d'élèves. Je ne sais pas pourquoi, peut-être les élèves se disent que, bon, pourquoi je vais là-bas, si on peut faire une formation de 3-6 mois quelque part, et on devient soit quelqu'un dans la société, mais absolument, c'est l'école technique, c'est qu'on forme des cadres, parce que c'est pendant 5 ou 4 ans qu'on forme certains jeunes pour devenir des maîtres de la société.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse avoir comme avant, à l'époque où ces écoles étaient dans toute leur splendeur, cet engouement?
Oui, madame, la seule solution, les remèdes et les suivis. Le gouvernement doit prendre en charge les enseignants. Parce que quand on paye bien un enseignant, il veut se donner un enseignement de qualité. Mais quand vous bafouez un enseignant, quand vous le payez 30 000 francs par mois, vous pensez que madame, l'enseignant peut préparer bien à l'école à la maison, l'enseignant peut s'habiller très bien, l'enseignant peut donner tout très bien? Non, madame, là je donne la faute au gouvernement qui doit prendre en charge les enseignants. On doit cesser l'histoire des primes, des dons que les élèves payent aux enseignants. Ça diminue les ressources, la valeur de l'enseignement, quand ils payent les dons. C'est déjà une condition morale, madame. Qu'est-ce que vous allez croire? Donc, je demande à notre gouvernement, qui est tout seul, de venir à la raison, de payer mieux, madame. Je n'ai pas dit bien. Vous payez mieux les éducateurs qui sont les enseignants des écoles primaires et secondaires, madame. Et vous allez voir que nous allons retourner à une bonne formation et on va donner un enseignement de qualité et on va donner aussi des bons élèves qui seront des bons futurs cadres dans ce pays, madame.
Oui, aussi, vous avez dit qu'il faudrait qu'on puisse mieux payer les enseignants, mais le fait qu'il n'y ait pas assez d'élèves dans les écoles techniques, est-ce que cela est lié au fait que les enseignants ne soient pas payés correctement?
Écoutez, madame, il y a aussi un problème. Le défi, c'est lequel? Le défi est le suivant. Dans les écoles techniques, il manque aussi de matériel, madame. Il n'y a pas assez de matériel. Par exemple, ici à Kimi, il y a que le CPB qui a donné un peu de matériel dans cette école. Mais s'il n'y a pas de matériel, c'est quoi que les élèves vont aller faire la pratique? La théorie est différente de la pratique, madame. La pratique, on doit voir les choses pratiquement comme ça. Mais quand il n'y a pas de machine, vous pensez que les élèves doivent véhiculer des bons messages là où ils sont, là ils viennent de la cité? Donc, on doit équiper les écoles aussi, madame. On doit équiper les écoles.
Je pense que ça pourra donner un peu de motivation aux élèves. Merci, Augustin, pour votre participation à cette émission. Nous allons à Mbandaka, on se trouve dans Char. Bonjour.
Oui, bonjour, Marie-Chantal.
Nous avons eu quelqu'un de Guémena, maintenant nous allons à Mbandaka. Quelle est la situation chez vous de ces écoles techniques et ces formations professionnelles?
Oui, l'état de ces écoles techniques qui se trouvent en Mbandaka sont à déplorer pour de mille raisons. La première raison, c'est que ces écoles ne disposent pas assez de matériel qui peuvent aider ces élèves qui étudient dans ces écoles pour procéder à leur pratique professionnelle. Donc, en fait, on a beaucoup d'élèves qui sollicitent à aller étudier dans ces écoles techniques industrielles, sauf qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a pas aussi des enseignants bien qualifiés. Des fois, les enseignants demandent aux élèves d'aller se débrouiller même pour aller faire des pratiques dans des ateliers de menuiserie. C'est ça un peu l'état des lieux de nos écoles techniques qui se trouvent en.
Mais est-ce qu'au niveau de Mbandaka, est-ce que les jeunes se rendent compte de l'importance de ces écoles ou bien préfèrent, comme la plupart de nos jeunes actuellement, de suivre la filière classique?
En tout cas, ils sont nombreux, sauf que se pose un problème des moyens financiers. Ils sont nombreux qui préfèrent aller étudier là-bas, sauf que ils n'ont pas assez de moyens pour aller étudier, parce qu'il y a beaucoup d'exigences qu'on fait à ces élèves par les chefs d'établissement. Ils ont beaucoup de matériel avant de pouvoir aller s'inscrire là. C'est ça un peu la situation.
Merci Blanchard pour votre participation à cette émission. Nous revenons ici à Kinshasa. Bonjour Arnold.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes ici, à Culture Star, on vous écoute.
Oui madame, c'est un thème très intéressant. Comme vous savez, la jeunesse est jeunesse, mais demande de famille qui doit être formée. Il appartient au gouvernement comme c'est sur le cas par le passé. Malheureusement, c'est à l'époque presque coloniale ou après quelques années, de mettre tout en marche, donc des structures pour accueillir cette jeunesse-là en dépendance. Donc, la jeunesse n'a pas que le problème. C'est la politique du gouvernement qui doit être repensée et orientée vers l'enseignement professionnel. Or, qu'est-ce que nous remarquons actuellement? Nous remarquons présentement qu'il y a un engouement vers le diplôme d'État. Tout le monde veut avoir son diplôme d'État. Et quand il a ses diplômes d'État, allez le voir. Ils ne font rien avec ça. On les retrouve dans les marchés, dans les cabines et tout ça. Donc, c'est un problème seulement de politique au niveau de l'EPFP. Je demande, j'en profite pour demander au ministre de l'EPFP vraiment de mettre tout le dossier double pour que cela puisse arriver un jour. Parce que, comme l'a dit le précédent intervenant, vous savez, l'enseignement professionnel est assez exigeant. Hein, je me rappelle l'époque, quand on était encore tout petit à Beaumont, à la cour scolaire, il y avait des écoles professionnelles qu'on appelait des pompes. Mais généralement, ce sont des écoles qui étaient organisées par les missionnaires. Ici, moi, à Maroc, par exemple, il y a des écoles professionnelles ici, il y a la menuiserie, mais qui ne sont pas encouragées par l'État congolais. Donc, je crois qu'il faut que l'État congolais, au lieu de continuer à signer des pompes d'État, il doit plutôt encourager l'enseignement professionnel. Moi, j'ai peur, c'est-à-dire ici, lorsque tous les anciens maçons, les vieux-là, seront décédés, qui prendront la relève? Vous comprenez? Donc, madame, c'est un problème sérieux. Il faut qu'au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, qu'on puisse enlever toutes les contraintes à la prise en charge des enseignants par le parent, et toutes ces contraintes-là, le chef d'établissement qui ont transformé pratiquement les écoles en business, il faut que le ministre fasse un effort, assainir un peu le secteur de la PSP, comme c'est le cas, nous sommes en train de le voir, des sous, son collègue de l'enseignement supérieur, peut-être d'assainir les mœurs. Qui l'assainit, c'est nous, si les écoles non viables, il faut les fermer. Les chefs d'établissement qui se comportent comme des rois télé, il faut les sanctionner. Hein? On ne peut pas acheter une forme, il faut acheter à l'école. On ne doit pas acheter un cahier de communication qu'on peut trouver sur le marché de 50 à l'école. Ça vous coûte 5 000. Mais c'est exagéré quand même. Les parents sont vraiment essoufflés. Comment voulez-vous orienter les enfants vers un enseignement professionnel? Parce que là, il faut acheter du matériel, et ainsi de suite, comme l'a dit le précédent. Sinon, je crois que c'est un problème de volonté politique. Il faudra que le gouvernement s'y mette. Sinon, bon, on attend en 2011, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire.
Pendant 2011, merci Arnold pour votre participation. Oui, on a compris, vous êtes revenu sur les exigences, des écoles professionnelles, il faut beaucoup de choses, il faut beaucoup de prêts, et aussi vous pensez qu'il faudrait assainir le milieu, et vous souhaitez qu'il y ait une politique assez claire par rapport à ce secteur-là. Nous vous disons merci Arnold.
Il arrive que vous soyez passionné de débats politiques, que vous réagissez vite aux propos de politique. Radio Tapi vous offre un cadre pour dialoguer avec le gouvernement, les hommes politiques, ainsi que les observateurs de la société civile. Du lundi au vendredi de 19h15 à 20h30 de Kinshasa, Dialogue entre Congolais vous promène dans la sphère politique congolaise avec Alain Louis.
Et nous poursuivons cette émission Parole aux auditeurs. Nous avons toujours au bout du fil notre invité. Il s'agit de Monsieur Michel Sangasso. Il est directeur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, notre émission est consacrée à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Monsieur Sangasso, vous avez suivi nos auditeurs et ils ont posé les problèmes qu'ils rencontrent dans leur milieu concernant ces enseignements techniques et la formation professionnelle. Ils ont fait même quelques propositions, l'assainissement du milieu, voir si c'est possible qu'on puisse revoir les exigences que ces écoles, que ces écoles demandent pour pouvoir suivre les études correctement. Quelle est votre réaction, M. Sangasso?
Merci madame pour la question. Je crois que les auditeurs qui ont pu donner leur réponse suivent de près le fonctionnement de l'enseignement de la formation professionnelle. Lorsque nous prenons notre ami de Kindou, qui a parlé de jeunes gens qui parlent de soi-même à l'école et des problèmes de sous-qualification des enseignants, nous pensons que ce problème-là relève de l'organisation interne de l'école. Il ne faut pas que les ministres puissent venir pour faire la discipline dans les écoles. Et alors, les chefs d'établissement doivent suivre pour effectivement faire régner l'ordre et la discipline. À partir de ce moment-là, lorsque les délinquants seront mis hors de l'état de nuire, je crois que l'ordre sera revenu et les enfants pourront ne pas suivre correctement les enseignements. Concernant le problème de sous-qualification, c'est un problème épineux. Nous savons qu'au niveau de l'intérieur, même tout comme la situation, il y a beaucoup d'enseignants sous-qualifiés. Le ministère est en train d'organiser les séminaires de formation de formateurs pour essayer de relever le niveau des enseignants tant à Kinshasa qu'à l'intérieur, et que petit à petit, les jeunes gens qui terminent les SPT, les USA et tout ça pourront effectivement remplacer ces enseignants. Mais alors, il y a un autre problème, le problème de matériel. Effectivement, c'est une préoccupation parce que, en fait, même les matériels qui existent dans la plupart de ces écoles laissés par les Belges sont vétustes. Là-bas, le projet appuyé à l'enseignement et la formation professionnelle de la CPB, nous sommes en train de cibler au moins une école par province éducationnelle pour bénéficier de l'appui, tant en matériel qu'en réhabilitation des infrastructures. Donc, de ce côté-là, nous sommes en train d'évoluer et que, effectivement, le gouvernement est en train de mettre le bouchon double, même dans la trajectoire de stratégie de développement de l'enseignement. On est en train de faire des efforts pour que les futurs écoles soient équipées et, effectivement, pourvues de professeurs qualifiés. Les inspecteurs sont en train de faire des efforts, un travail formidable pour la formation de formateurs.
Mais est-ce que vous avez aussi pensé à reviser le programme parce que la
technologie
est en train d'évoluer? Ce qui est étudié il y a plusieurs, peut-être une dizaine d'années actuellement est déduit parce que avec la technologie, l'informatique et tout ce qui suit, souvent ils sont en retard. Par exemple, les mécaniciens, maintenant il y a des boîtes, je ne sais pas, à vitesse automatique et tout ça. Et est-ce que c'est la même chose que ce qui est dit avant?
Merci madame. Le problème, c'est parce que maintenant nous sommes en train de revisiter presque tous les programmes de l'enseignement et de la formation professionnelle. Tous les référentiels de 10 options, à l'heure où j'en parle, sont en cours de finalisation avec le projet CTB. Les experts sont en train de suivre. Maintenant, d'ailleurs, les programmes sont en train d'être visités selon l'approche par compétence parce que, en fait, pendant que nos anciens programmes sont en train d'être dispensés, la technologie au niveau des entreprises, tout comme au niveau du monde du travail, évolue. Et maintenant, nous sommes en train de faire une adaptation formidable sur cette insuffisance, de manière à ce que maintenant, là, les jeunes gens, non seulement qu'ils vont faire la pratique professionnelle dans leurs écoles, mais ils peuvent aller dans les entreprises pour être initiés à la employabilité. Mm-hmm. Donc, ce projet de travail est en train de se faire. D'ici le mois de novembre, nous allons envoyer ce texte-là d'abord au ministre pour les sanctions. Et le texte va être bientôt organisé et la famille mettant la formation de formateurs pour la division et l'enregistrement de ce programme est dans une intérêt. Donc, de ce côté-là, je crois que vous devez avoir vos apaisements.
Oui, mais il y a aussi cette question du mythe du diplôme. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'apparemment, si tout le monde veut devenir un jour diplômé, toutes ces écoles vont à la longueur des années, il n'y aura plus d'élèves.
Il y a une campagne de sensibilisation que le ministère a programmée pour effectivement sensibiliser non seulement les élèves de l'école mais des mortels, pour effectivement changer la mentalité des jeunes, des parents, etc., pour effectivement que les choses changent. Parce que, en fait, nous nous sommes rendus compte qu'en faisant avoir le diplôme d'université, on va directement vers le chômage. Donc maintenant, s'il y a quelque chose de tout fait à l'horizon, je crois que c'est là seulement une information professionnelle. Et on est en train de s'y mettre.
Nous allons écouter d'autres auditeurs qui veulent aussi s'exprimer, donner leur avis sur la question.
Très bien.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Elise. Elise, vous appelez de Badolité.
Elise, j'appelle de Badolité.
Oui, en tout cas, bonjour. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une femme au cours de notre émission. Elise, dites-nous un peu dans votre milieu à Badolité, quel est l'état de lieu que vous faites de ces écoles techniques et la formation professionnelle.
Oui, dans notre ville ici, il existe des écoles professionnelles, mais pas beaucoup. Et puis, les écoles sont moins équipées. Il manque des matériels professionnels pour les élèves. Dans, les élèves apprennent la théorie, mais il n'y a pas vraiment la pratique pour des matériels. Et il y a un autre problème.
Oui.
Un autre problème, c'est concernant les années d'État.
S'il vous plaît,
un peu faible des participants.
S'il vous plaît, Elise, oui. Est-ce que c'est possible que vous puissiez éteindre votre poste récepteur, votre radio, tout juste à côté de vous, ou carrément vous éloigner du poste récepteur. Comme ça, ce sera plus facile pour nous de communiquer avec vous. Et face à toutes ces difficultés, quelles sont les propositions pour pouvoir promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle?
Ok, comme ici, il y a l'électricité, il y a la mécanique générale, la coupe couture. Nous demandons au gouvernement de pouvoir équiper ces écoles-là, surtout les écoles publiques, parce que les élèves ont cette envie là de pouvoir apprendre la technique parce qu'on n'a pas beaucoup de techniciens, il n'y a pas beaucoup d'électriciens, beaucoup de mécaniciens. Et ceux qui sont déjà vieillis, alors nous avons besoin des jeunes qui peuvent apprendre ça, nous demandons au gouvernement de pouvoir équiper ces écoles et de pouvoir revoir les problèmes de la correction des examens d'État. Les élèves se découragent parce qu'il y a un taux faible de la réussite. Et j'ai même un petit frère qui a pu quitter l'électricité à cause de ces résultats. Il a rejoint la pédagogie. Alors, ce sont là les propositions que je fais au niveau du gouvernement.
Merci. Merci beaucoup, Eunice, pour votre participation. De Dungu se trouve Henri. Bonjour.
Bonjour, Marie-Chantal Kumba.
Oui, on vous écoute, Henri.
Ok, l'état des lieux des écoles professionnelles chez nous, je dirais que c'est inexistant, de ça plus que nous n'avons pas même une école professionnelle dans les milieux d'Ungu. On a des latéfinaux, des scientifiques et pédagogiques, c'est plein partout. Il n'y a même pas une maçonnerie ni une menuiserie. C'est que dans cette place où c'est construit une maison, même une brique à tôle, on doit importer un maçon de Bounia, on doit importer un maçon d'Ariouara, d'Aru. Et grave accord, l'école mécanique pour mécaniciens, chauffeurs, inexistant. Vous savez, quand quelqu'un termine ses humanités ici, il doit se débourser l'argent pour aller à Butembo étudier la mécanique afin de revenir ici à Dungu. Récemment, par exemple, il y a les ONG qui viennent. La main-d'œuvre locale du point de vue technique, ça n'existe pas. Je ne sais pas si, comme à l'époque, c'était plus les diocésains, les missionnaires qui ont fait cette affaire, l'initiative privée aussi, il n'y en a pas. Ce que nous déplorons, peut-être que vous initiez, vous n'avez pas décidé, après, au décor, que votre centre est non viable, et tout ça, ça peut aussi décourager ceux qui peuvent avoir les initiatives d'être pas de telles démarches.
Mm-hmm.
Voilà, et ce que nous déplorons, c'est moi, Dungu.
Merci, Henri, pour votre témoignage à partir de Dungu. Nous avons Peter Bébé, il nous écrit à partir de la France. Je vous écris de la France, je suis sur Internet, mais ça coupe par moments. Il faudrait que le ministère en question puisse avoir ces initiatives chaque fois. Il ne suffit pas seulement de passer à la radio, mais il faut passer ce genre de programme à la télévision, par exemple lors du journal, car là, les parents suivent la télé. Maintenant, nombreux des parents sont au boulot et ces initiatives leur passent inaperçues. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation. C'est Peter Bébé qui nous écrit à partir de la France. Il y a Léni Léthia qui fait ça. Bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, Léni, on vous écoute.
Mais écoutez, moi, je voulais seulement dire au directeur du ministère de l'EPSP que le résultat est négatif, tout à fait négatif. Je me souviens, à l'époque où j'étais jeune, j'allais à l'école, il y a des écoles à qui ce sont, notamment l'école technique de Linguala, l'école technique de Chili, qui travaillaient en harmonie avec des grandes entreprises locales telles que l'ONATRA, hein, et Air Zaïr et les forces armées. Mm-hmm. Je me souviens lorsque ce pays a acheté les Mali, les Mali plutôt, les Fougam Magistères, après on a acheté les Mirages. Tous les mécaniciens des phases étaient formés à l'école technique ici à Linguala. Tous les mécaniciens d'Air Zaïr, du Fokker au DC-10, étaient formés à l'école technique ici de Linguala. Lorsque l'ancien président est arrivé à Tokyo, à l'aéroport de Narita, et il est sorti, et l'équipage est sorti, on a demandé où se trouvaient les blancs. On leur a dit qu'il n'y avait pas de blancs. Où étaient les mécaniciens? On leur a demandé, les mécaniciens tous congolais. Ils avaient étudié ici, à l'école technique de Linguala. Mais allez-y rendre visite à cette école. Elle était gérée par les prêtres à l'époque, c'est vrai. Mais depuis que nous-mêmes, nous avons repris la gestion de ces écoles. Et on trouve partout les mêmes écoles techniques qui sont complètement abandonnées. Mmh. On leur remet des diplômes alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est visser. Ils ne savent même pas ce que c'est un écrou. Mais c'est quand même dramatique. Lorsque vous arrivez dans des laboratoires de chimie, il n'y a même pas d'éprouvette. Alors, de quelle éducation parlons-nous? C'est un problème sérieux. Regardez le pôle technique de Linguala qui était le fleuron de cette ville de Kinshasa. Regardez comment cette école était expoliée. C'est quand même inadmissible. Et à côté de cela, il y avait les foyers sociaux où les jeunes dames et les jeunes filles allaient apprendre des métiers professionnels réservés aux dames. Aujourd'hui, tous les foyers sociaux n'existent plus. Alors, de quelle éducation parlons-nous? Je voudrais bien demander à ce monsieur quel est le plan de développement de ce pays en fonction de l'éducation. On parle demain de la construction du nouveau barrage de Inga 3. Mais savez-vous que nous n'avons pas des gens capables pour aller travailler, soit au niveau de la maçonnerie, soit au niveau de la mécanique, au niveau de l'électricité? Et comme l'a dit tout à l'heure un auditeur, si demain, tous les vieux maçons, les vieux électriciens arrivaient à mourir, quelle est la relève? On ne développe un pays qu'à partir de l'éducation et rien d'autre.
Et vous pensez que le fait que les élèves, les jeunes désertent ces écoles, c'est aussi par ce manque d'équipement?
Mais madame, comment peut-on inciter les jeunes à apprendre lorsqu'on ne leur a dit que la théorie? Mais dans une école technique, il y a les deux, la théorie et la pratique. C'est surtout la pratique qui importe. Mais si vous ne savez pas distinguer le pôle positif, le pôle négatif en électricité, madame, si vous avez un diplôme de diplôme d'état technique, c'est des cas chiffons. C'est des cas chiffons. Mais il y a des gens ici. Vous savez, à l'époque, l'ONATRA. L'on n'a pas recruté que dans les écoles techniques. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette relation entre la formation technique et la formation professionnelle. Parce que quand on dit professionnel, il faut avoir une certaine technicité. Mmh. C'est ça le problème. Et même au niveau de la semaine,
Aujourd'hui, on parle du démembrement de la SNEL en trois entités. Moi j'appelle ça la base de blague, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'ingénieurs formés, il n'y a pas suffisamment de techniciens formés pour pouvoir occuper les trois entités que nous envisagerions de réaliser demain.
C'est un problème. Merci beaucoup, Lénie, c'est pour tant de préoccupations que vous avez soulevées face à ce secteur de l'enseignement. Nous vous remercions pour votre participation. Nous prenons Arsène avant de redonner la parole à notre invité, M. Michel Sangasso. On écoute d'abord Arsène de Bukavu. Bonjour, Arsène. Arsène.
Arsène. Ok, bonjour. Bonjour, mademoiselle.
Madame, on vous écoute.
Les responsables de la CPTV. Donc, moi, j'encourage d'abord notre sujet d'aujourd'hui concernant la formation professionnelle. Mais quelque part, je vois que notre gouvernement souvent démoralise donc les formateurs là, parce que souvent vous verrez les formateurs, donc les formateurs, ils donnent les Orléans la chance de sortir, mais il n'y a pas souvent un bon document qui leur permettront que l'État congolais puisse les valider. Vous verrez, on forme quelqu'un en technique, il devient chauffeur, mais il n'a pas de permis de conduire. Moi j'ai un chauffeur, ça fait 3 mois qu'il a fait de chercher le permis de conduire au ministère des Transports, il ne le trouve pas. Et après, c'est ça, je me demande comment l'État fait ce soutien avec des chauffeurs. Il ne dépend pas de 100% de son programme. Quand on voit les enseignants, ils ne sont pas payés. Quand on voit les universités, les professeurs ne sont pas payés. Moi, je ne vois pas l'utilité des gouvernements si les gouvernements peuvent s'engager convenablement et d'encourager donc, en fait. Mais quelque part, je vois qu'ici à Bukavu, il y a des centres de formation, il y a au Sud-Est, il y a aussi CAP industriel, nous avons aussi l'IFM, il y a CTT Panzi, il y a aussi au niveau des INPP aussi, mais il y a toujours des démoralisations.
Donc les jeunes ne sont pas motivés à aller s'inscrire dans ces formations-là. Merci Arsène pour votre intervention à partir de Bukavu.
Parole aux auditeurs.
Nous allons redonner la parole à notre invité, le directeur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, M. Michel Sangasso. Encore une fois, vous avez suivi nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu si, au sein de l'EPSP, vous avez une politique pour pouvoir implanter ces écoles un peu partout, bien d'une manière équilibrée, parce que l'exemple de Dungu, ils sont obligés de faire recours à la main d'œuvre à une centaine de kilomètres ou bien à plusieurs kilomètres de l'endroit où se trouve pour une construction ou pour faire une table, une chaise, c'est quand même assez aberrant.
Oui, merci beaucoup madame pour la question, mais il y a beaucoup de choses à la fois. Concernant par exemple les maçons, les plombiers qui sont en voie de disparition, moi j'ai l'impression qu'il y a un programme que nous sommes en train de mettre en marche. D'ici là, nous avons recruté un consultant qui est en train de mener des investigations pour savoir quelles sont les causes de la disparition de ces écoles, qu'est-ce qu'on peut faire pour les réhabiliter. Donc, de ce côté, nous n'avons pas oublié qu'effectivement, il y a un problème qu'il faut résoudre. Concernant la collaboration entre les entreprises et les écoles professionnelles, nous sommes en train de diffuser et de vulgariser des outils pédagogiques en rapport avec les unités formation-emploi. Ces unités formation-emploi qui vont bientôt être installées dans les écoles auront pour mission de prendre contact avec les entreprises pour connaître leurs besoins en futur candidat qui doivent être utilisés dans leurs entreprises, pour essayer de faire les pratiques, les stages professionnels au sein de leurs entreprises, pour pouvoir effectivement adapter les programmes de formation aux besoins des entreprises et pour insister à ce que sans l'implication de ces entreprises, l'école professionnelle n'a pas de sens. Donc, de ce que nous devons maintenant, c'est de solliciter la compréhension des entreprises pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, intervenir dans la formation professionnelle pour qu'en fait, ils puissent plus former d'autres candidats dans leur formation, mais effectivement, qu'ils puissent immédiatement récupérer les jeunes gens qui sont formés de commun accord avec nous. Donc, c'est de cette manière-là que les choses peuvent aller. Donc, moi, je pense que le problème de spoliation des écoles, c'est un problème général. C'est de l'agrément profond de toutes les écoles techniques, tout comme les écoles en général. Mais le gouvernement est en train de faire progressivement. Je voulais vous dire que nous devons, avec le projet de la CTD, ciblée par province éducationnelle, au moins une école qui sera équipée et quelquefois on va former les utilisateurs, on va réhabiliter les infrastructures. Et peut-être que l'année prochaine, on prendra deux, ainsi de suite. Je crois que c'est un vaste programme qui est en train de se mettre en
ligne. Oui, s'il vous plaît, nous allons d'abord écouter aussi les deux autres auditeurs avant de revenir à vous et conclure, bien sûr, cette émission. Parce qu'on sait qu'il y a autant de projets. Peut-être vous pourrez nous dire quand est-ce que ça va commencer, parce que c'est tellement au futur qu'on a l'impression qu'il faudrait peut-être attendre encore plusieurs années. Vous allez me donner plus de précision. Mais prenons d'abord Donna de Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, maman Chantal. C'est Donna.
Oui, on vous écoute en une minute. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour
vous? Nous étions là, techniques et professionnels. Mais il y a une difficulté. Pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu une augmentation des élèves? S'il y a un service d'orientation, on peut aller de l'avant. Maintenant, dans notre milieu, c'est nos élèves pratiqués à la mi-bas. L'électricité, la mécanique, tout était à la mi-bas. Maintenant, comme la mi-bas est par terre, nos enfants souffrent. Il n'y a pas la pratique professionnelle comme il faut. Mais pour remédier à cette situation, il faut adopter les écoles techniques et professionnelles avec le matériel didactique. Créer des ateliers de pratique professionnelle. Abaisser aussi les frais scolaires dans des écoles techniques et professionnelles parce que c'est très cher là-bas. Ce n'est pas n'importe qui peut étudier dans une école professionnelle. Merci.
Merci, Donna, pour votre intervention. Nous on prend directement Gaylor de Kananga. Bonjour.
Bonjour Marie-Chantal.
Oui, Gaylor, quelles sont vos propositions pour pouvoir valoriser ces métiers, ces écoles de métiers?
Oui, merci Marie-Chantal. Les écoles professionnelles existent ici à Kananga et elles publient comme des microbes dans un milieu de culture. Mais le constat amer que nous avons fait est que dans toutes ces écoles, il n'y a pas de matériel, surtout la coupe et couture. Comment voulez-vous que l'on puisse enseigner à nos filles comment coudre? Alors, ce n'est complexe, non même pas de machines à coudre.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir valoriser ces écoles?
Il faudra faire, c'est qu'il faut d'abord fermer les écoles qui sont non viables, que l'État prenne sa responsabilité. S'il y a un promoteur du complexe scolaire qui veut qu'il y ait la coupe couture chez lui, qu'il cherche des machines à coudre pour la bonne formation des élèves,
merci.
Et que l'État puisse occuper ses propres écoles avec des matériels qui puisse aider les enfants à avoir une formation de qualité.
Merci beaucoup, Gaylor. Vous êtes à Kananga pour votre participation. Nous redonnons la parole à notre invité. Il s'agit de M. Michel Sangasso. En conclusion, nous allons arriver presque à la fin de cette émission. On vous écoute.
Merci, madame, encore une fois pour la parole. Oui, je pense que pour conclure, je dois d'abord remercier sincèrement tous les intervenants pour les rapports combien pertinents et importants pour permettre au ministère de revisiter les politiques, mais de toutes les manières, le programme que nous avons avec la coopération française belge est en cours. Les études de faisabilité ont été déjà élaborées. Nous sommes en train de faire le ciblage des écoles qui doivent être appuyées. effectivement, nous sommes en train d'élaborer des référentiels qui doivent être appliqués et effectivement, nous sommes en train de sensibiliser les entreprises et les écoles d'être en parfaite harmonie pour que effectivement nous ayons des jeunes gens qui ne vont pas venir chercher à demander l'emploi, mais des jeunes gens qui doivent être leurs propres entrepreneurs. La politique fait en sorte d'ailleurs en ce qui concerne la motivation. Vous venez de suivre pour la fin du mois de septembre, les salaires des enseignants de l'intérieur seront égales au salaire des enseignants de Kinshasa. Je crois que c'est déjà une bonne chose. Et nous craignons que les gens de l'intérieur, une fois qu'ils auront beaucoup d'argent, ils vont avoir une équipe de femmes. Et c'est ça le comble de nous, les Congolais. Donc, je crois qu'ils vont mettre tout en contribution pour effectivement révéler à l'enseignement technique sa robe de terre. Le ministère est en train de faire pas mal de choses pour essayer effectivement de redonner à la République les cadres qualifiés capables pour participer au développement du pays. Et je crois que le gouvernement seul ne peut pas tout faire, mais il y a le gouvernement populaire qui doit mettre aussi quelque chose dans la contribution. Et nous demandons aussi à la population de sensibiliser la jeunesse à la protection des matériels qui seront acquis ou bien à mettre dans les écoles, de plus que les jeunes gens puissent nombreux assister à l'enseignement de la formation professionnelle. Et je crois que c'est l'enseignement de demain. Et que je crois si tout le monde va dans la bonne direction, nous pourrons arriver à
quelque chose. Votre projet, c'est sur combien d'années le programme de pouvoir équiper toutes ces écoles professionnelles?
Nous y allons année par année. Moi, je crois que l'année dernière, nous avons réhabilité à peu près 15 écoles à travers la République. Cette année, nous allons réhabiliter une école par province, ça fait 30 écoles. Mais progressivement, on va y aller. Alors, nous avons ciblé les options. Il s'agit d'une option, par exemple, agricole, l'électricité, mécanique générale, coupe et culture, informatique, etc.
Merci voilà beaucoup.
Les besoins d'électricité et puis d'électronique.
Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission consacrée à l'enseignement professionnel et non formel. Nous vous disons merci, Monsieur Michel Sangosco, pour votre participation à cette émission.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Nous disons également merci aux auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous ont suivis en FM ou sur www.radiocapi.net. Nous leur disons merci pour leur attention qui porte à notre émission. Merci à Pierre Lamège et Nicole Ngaka qui ont réalisé cette émission à demain à partir de 10h heure de Kinshasa sur les zones de la paix.